Recife.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission à Publico, librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, émission Des mots, une voix. Vous pouvez aussi la contacter par mail au mail demo.com. unevoix@gmail.com. Ce mois-ci, dans l'émission Des mots, une voix, nous recevons Tristan Félix pour Rêve ou Crève, Tinbad édition 2022, pour Faux une faille, Z4 édition 2020, et pour Tangor, PHB édition 2020, et Gaël Aubier-Gly pour Totalement Inconnu, Christian Bourgois éditeur en 2022, et pour Petit éloge de la jalousie, collection Folio Gallimard. Nous allons commencer l'émission par Tristan Félix, puis Gaël Aubier-Gly. Ça vous va comme ça? C'est pour les obligations de Tristan. Tristan Félix, bonjour. Vous venez de sortir Rêve ou Crève chez Tinbad cette année, Faux une faille chez Z4 édition en 2020, et Tangor chez PHB édition en 2020. Mais ce ne sont pas vos seuls derniers livres. Il y en a un autre dont vous m'avez parlé. Pourriez-vous nous en dire deux mots, même si je n'ai pu le lire?
Il s'agit de Les Hauts du Bouc chez Aetalides, qui est un recueil de poèmes en prose, bon, qui est intitulé, sous-intitulé Nouvelle, mais ce sont plutôt des poèmes en prose de mes errances en Irlande, dans le
Cotentin.
Qu'est-ce
que vous faites comme différence entre Nouvelle et poèmes en prose?
La Nouvelle, elle a vraiment un statut de narration, j'allais dire un peu classique, avec un déclencheur d'action, une chute rapide pour la Nouvelle. Avec le poème en prose, il y a quelque chose de l'ordre de la magie qui irradie tout le texte. Il ne se passe pas forcément quelque chose de formidable dans un poème en prose. Enfin, c'est ma façon d'envisager...
Et comment vous faites le choix? Si choix il y a.
Je ne fais pas de choix, en fait c'est l'écriture qui m'amène au poème en prose. Parce que je pense essentiellement poésie. Et non pas narration. Je ne suis pas une narrative. J'ai aucune mémoire du reste narrative. J'ai déjà l'oubli de mes 7 premières années, alors c'est mal barré.
Moi, je pensais que c'est 6.
Ouais, 6, même 7.
Ouais. Bon, j'ai une question là-dessus. Ben, juste celle d'après, d'ailleurs. Vous êtes né au Sénégal et vous y avez vécu 6 ans. Alors, 7 ans, je vais mettre changer ça.
6 ans, mais après, il y a une année en banlieue, en banlieue parisienne. Oui, 6 ans en Afrique. Voilà. Une année en banlieue parisienne qui est un peu passée aussi à l'autre Javel.
D'accord, donc il n'y a pas d'erreur, je crois. Et vous n'en gardez aucun souvenir, il me semble. Pourriez-vous nous expliquer cela? Avez-vous quelques pistes sur cet oubli, cet effacement de votre mémoire? Enfin, c'est courant, hein,
Bien sûr, mais bien entendu,
c'est extraordinaire. Hein.
Je pense que ça a été.
Ça arrive à beaucoup d'enfants.
Oui. Je pense que ça a été sans doute parmi. Enfin, j'ai ce sentiment sanguin, parmi sans doute les pires années de ma vie, même si j'en ai retenu, j'allais dire peut-être pour Tangor aussi, le rythme de l'Afrique. La seule chose dont je ne me souviens pas, mais que ma mère m'a dit, c'est que je dansais avec elle. Et les voisines africaines à Dakar, au moment des fêtes de l'indépendance, on dansait dans l'appartement. Et je pense que j'ai en moi ces rythmes, le rythme de l'Afrique, et qui est passé après dans la cadence poétique. Je ne sais pas de quelle façon exactement, mais il y a quelque chose qui est passé par le sang, en tout cas.
Et que vous avez retrouvé dans le tango?
Bien sûr, dans le tango, dans la capoeira, dans la salsa aussi.
Vous avez fait de la capoeira un peu ?
Oui, 2 ans, oui. Jusqu'à ce que je me retrouve avec un coup de pied du maître dans le front. Et là, je me suis cassée, je me suis dit, ça, c'est pas possible.
Ouais, j'allais dire, c'est presque un art martial, quoi.
Ouais, mais quand un maître te donne un coup de pied dans le front, il faut que tu t'en ailles. Il y a autre chose qui se passe.
C'est entre danse et combat, quoi.
Oui, mais le maître doit se maîtriser.
Bah oui.
Voilà.
Fallait en choisir un autre.
Je suis passée à la salsa.
Vous auriez été invincible.
Peut-être, oui.
Aviez-vous accès à tous les livres que vous vouliez, jeune?
Oui, je pense. Ma grand-mère était institutrice et on allait à la bibliothèque dans Dardanos-les-Bains. Et je choisissais essentiellement les livres d'animaux. Mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, choisissait des livres un petit peu plus intellectuels. Je lisais très lentement, il lisait très très vite.
Et quel genre de livre il choisissait? Vous vous souvenez de certains
titres? Non, je ne me souviens pas. Mais j'ai eu des grosses difficultés de lecture jusqu'en Hippocagne, où j'ai fini, parce que je ne vais pas en rentrer dans le détail, c'est pas très intéressant.
Vous avez fini un livre en Hippocagne? Vous avez comment réussi à finir un livre?
Non, mais là, quand j'avais 18-19 ans, j'ai eu des gros soucis. Je me suis fait même soigner pendant 6 ans, parce que je n'arrivais plus à lire. l'écriture devenait du dessin. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis passée au dessin aussi. Je n'entendais plus rien à l'écriture. L'écriture n'était plus porteuse de sens. Elle était porteuse d'un dessin que je dirais maintenant magique, parce que je lui ai donné du sens beaucoup plus tard, hein, à mon grand âge maintenant. Mais je n'entendais plus rien à la langue pendant... Je n'ai plus rien entendu à la langue pendant 6 ans. Voilà.
Vous arriviez à écrire ?
J'écrivais à 13 ans des lettres à ma mère, des lettres drôles, parce qu'elle m'envoyait des lettres poétiques. Et voilà. Mais j'ai une blessure de la langue, ça c'est sûr. Et quand j'ai lu pour la première femme à l'armée, ça m'a paru très très simple, même si je ne comprenais pas grand-chose. Mais je reconnaissais dans l'écriture de Mallarmé une blessure semblable.
Vous vous intéressez à la poésie. Quelle différence faites-vous entre vers et prose, si vous en faites une? Pourquoi alors employer les uns plutôt que l'autre?
Alors ça, c'est une question vraiment intéressante, parce que j'ai récemment intégré une équipe bien barrée, l'équipe de LPB, la page blanche, qui est dirigée par Mathieu Laurin et à l'origine Pierre Lamarque. Et il y a des échanges par mail notamment qui portent sur la raison d'être du vers, et Pierre Lamarque notamment. On a d'ailleurs eu un échange encore il y a quelques jours là-dessus, enfin pas à moi personnellement, mais à l'équipe, sur la nécessité, voire la vanité du vers. Son idée, c'est que la poésie innerve un texte et que le lecteur est capable lui-même de faire des vers dans sa lecture. Et que, mais ça c'est sa position, non, c'est en chantier dans ma tête depuis quelques jours. Et à savoir, est-ce qu'un vers donne le statut poétique à un texte ?
C'est autre chose, ça.
Voilà.
Est-ce que vous imaginez Baudelaire en prose ?
Il a fait des poèmes en prose.
Oui, non, mais dans ses Faire du mal.
Mais alors, Pierre Lamarque, notamment, et pas que lui, se met à traduire de façon très insolente et donc géniale des textes en vers qu'on lui envoie, il les balance en prose. Enfin, en prose. Il déstructure la ligne martiale, c'est pas lui qui dit martiale, du vers, avec d'autres respirations, de façon à ce que ça devienne des versets ou de la prose. Mais c'est pas inintéressant. Je n'en suis pas encore très convaincue, peut-être ne le serai-je jamais, mais c'est intéressant. Moi, l'idée du vers, c'était l'idée d'une respiration, c'était l'idée aussi d'une contrainte, et sans contrainte... Je ne sais pas, alors c'est peut-être culturel, hein, mais je ne sais pas créer. Il me faut des barbelés pour inventer quelque chose.
Le rythme aussi.
Oui, bien sûr, absolument. Oui. Un rythme. Alors, c'est sûr qu'on peut trouver le rythme au-delà du vers, au-delà des 12 syllabes, ou 10 syllabes, octosyllabes, hexasyllabes, pentasyllabes. Mais j'aime bien aussi ce dispositif linéaire, successif. Mais depuis quelque temps, je ne suis pas définitivement convaincue. Je suis ouverte.
Et vous aussi, Gaëlle Obligli, vous posez cette question vers prose dans vos textes, les deux derniers qu'on va parler.
Dans le dernier, oui. Mais moi, je n'écris pas de poésie. J'ai écrit de la poésie quand j'étais plus jeune, mais... en général, quand j'écris un poème, c'est tous les 6 ans, et ça s'impose à moi. C'est-à-dire que je les écris quasiment sous la dictée. Et oui, je me pose aussi la question vers prose, parce que c'est pas pour moi, c'est pas ça n'a pas la même origine. L'écriture en prose et le vers, ou disons. Même la poésie sans versification et l'écriture en prose, qu'elle soit narrative ou non, n'ont pas la même origine.
Et je crois aussi que pour qu'il y ait... Enfin, l'origine de la poésie, elle est sacrée, elle est magique. C'était pour s'adresser aux morts et aux dieux. Donc il fallait quelque chose... Peut-être après les mains dans les grottes. Il fallait quelque chose qui soit de l'ordre de la transe, de l'ordre de la cadence, du crypté. Et je crois que le chiffre du nombre, alors après c'est devenu, alors je ne suis pas une historienne du vers, hein, mais le nombre de syllabes, je pense, participe de cette volonté d'atteindre à l'inaccessible, qui est le mort ou le divin, enfin... Bon, alors, il y a autre chose aussi, parce que c'est peut-être plus personnel, mais j'ai toujours compté. J'ai compté de façon maniaque, j'ai compté les kilomètres, j'ai compté les phrases, j'ai compté les syllabes. Quand j'avais des soucis de lecture, je me mettais à compter par trois, trois fois trois, etc., etc., etc. J'avais du mal à calmer mes angoisses sans compter. Donc peut-être aussi, peut-être une des raisons pour lesquelles je ne veux pas me détacher totalement du vers en tant que ligne comptée, plus ou moins comptée, parce qu'il y a aussi le vers libre, enfin, qui n'est pas rimé, ni très régulièrement compté. Mais dans Rêve ou crève, il y a de l'alexandrin rimé, il y a de l'alexandrin pas rimé, il y a du pas compté, pas rimé, un peu de tout.
Comment trouvez-vous vos éditeurs ? Vous avez une liste de livres publiés longs comme le bras, avec presque autant d'éditeurs que de livres, presque. On en retrouve quand même quelques-uns qui reviennent de temps en temps.
Ben c'est Françoise Favretto.
Vous avez un carnet d'adresses grand.
Ben, Françoise Favretto de l'Atelier de l'Anneau, qui m'a édité il y a longtemps, me disait qu'il faudrait... Enfin, je ne sais plus ce qu'elle me disait, ce n'est pas un impresario, mais parce que j'écris des choses... Enfin, elle me dit que tu écris des choses tellement différentes qu'il te faudrait un éditeur par bouquin. C'est un petit peu ce qui se passe. Récemment, c'est Christophe Hainaut.
Comment vous faites ? Vous la renvoyez ?
Alors récemment, par exemple, Christophe Hainaut m'a parlé de Tristan Félix aux éditions Etalides, ainsi qu'à Tinbad. C'est comme ça que j'ai été éditée par ces deux éditeurs. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai envoyé à Dumerché, et quelques jours plus tard, c'est Hubert Haddad qui me donnait rendez-vous à la Gare du Nord. Donc ça a été une grande surprise et un grand bonheur aussi. Sinon, j'essaie des envois.
Dumerché qui a mal tourné.
Oui. Bah ouais, y a des
passons, n'en parlons plus.
Oui, il ne faut pas de diffamation. Oui. Sinon, ça se fait un petit peu par famille, c'est une espèce de parentèle poétique. Ce sont des affinités. Qui fait qu'on se rencontre. On se rencontre aussi sur des salons de revues, au salon de l'autre livre. Je sais que j'ai présenté, par exemple, j'ai suggéré à Jean-Claude Gouary de proposer des textes à PHB Éditions, à Philippe Barrault. Et Jean-Claude Gouary est un écrivain que je trouve excellentissime, très très fort, très très pentu. Et je suis très heureuse que Philippe Barrault l'ait accueilli. Voilà, il y a des choses comme ça. On se lit. On lit d'autres poètes que soi-même, évidemment, heureusement. Et c'est ainsi que se forment les familles agrandies. Les familles agrandies. Voilà,
Quel écrivain vous ont marqué adolescente ?
Oh, mais c'est la fameuse triade que ma mère m'a offerte quand j'avais 14 ans. L'Autréamont, Baudelaire... Rimbaud.
Il y a pire,
oui, je pense. Et ça a été comme des je dirais pas des ciels qui s'ouvrent, mais des gouffres. Des grands gouffres qui se sont ouverts. Et l'aune était tellement haute que il a fallu plus tard s'ajuster comme on pouvait. Et ces trois-là, alors, l'Autréamont, lui, il n'est pas en vert, mais qu'est-ce que ça swing ? Qu'est-ce que ça balance ? Puis ça gueule, puis ça crie, ça éructe, ça apostrophe l'univers, et c'est réjouissant. Ce sont des auteurs qui sont tout sauf soumis, qui ne répètent pas une culture littéraire.
On le voit par la vie, en tout cas, de Baudelaire et de Rimbaud. Oui. L'Autréamont, on n'en sait pas grand-chose, mais Baudelaire et Rimbaud, on voit leur vie. Quoi.
Ouais,
ils ont toujours été en marge et ils ont refusé jusqu'à finir chacun de leur manière.
Bah, écrire, c'est refuser, je pense. Je pense que votre terme est fort juste. C'est refuser pour construire autre chose sur des ruines. Enfin, construire autre chose, construire ou mettre en branle quelque chose. Refuser, oui. Refuser ce qui a été imposé, refuser ce qui a fait mal, refuser ce qui a manqué vous flinguer, refuser ce qui est inique, refuser ce qui est laid. Annie Lebrun en sait quelque chose dans son fameux livre « Ce qui n'a pas de prix ». Et c'est pourquoi je ne cesse de faire de la publicité sur cet ouvrage. « Ce qui n'a pas de prix » de Annie Lebrun. J'ai oublié l'éditeur, c'est quoi déjà?
Ben, c'était son ancien éditeur.
Oui. C'est qui?
C'est Stock.
C'est chez Stock, oui.
Mais enfin, son ancien éditeur, c'était Gallimard.
Mmh. Et refuser la laideur, c'est une sacrée paire de manches. Je nous sens de plus en plus envahis par la laideur, que ce soit la laideur architecturale, que ce soit la laideur du langage, la laideur médiatique.
Vous vous rendez compte, parler de laideur architecturale? Si on regarde, bon, pas par exemple Guggenheim, tout ça, qui est plutôt une réussite, mais si on regarde globalement les bâtiments qu'on va laisser dans la périphérie, partout.
C'est bien, on construit des ruines.
Des parallépipèdes. partout, une infinité de parallépipèdes avec des petites ouvertures, tout pareil.
Il n'y a pas de balcon.
Il n'y a rien.
Il n'y a pas de possibilité d'aller dehors.
Rien. Et en dehors, c'est rien.
Des pelouses.
Il y a du béton ou des pelouses. Il n'y a même pas de forêt. Il n'y a rien au pied des bâtiments.
Mais je pense
pas
que c'est une façon extraordinaire. Là, on me traita de paranoïaque, sans doute. Mais je préférais être paranoïaque et lucide. C'est une façon extraordinaire de faire fermer sa gueule à la majorité des gens. De les enfermer dans un endroit qui les tue, architecturalement, géométriquement parlant. Un corps n'est pas carré.
Alors, en disant, c'est déjà bien que t'es ça, quoi.
Pardon ?
En leur disant, c'est déjà bien que t'es ça.
Oui, oui. La culture de l'indignité...
Et elle a oublié Gli. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Non, j'acquiesçais quand vous disiez que c'est une volonté de leur dire, estimez-vous heureux. Vous êtes déjà vous êtes à l'abri, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Donc... moi non plus, je voudrais pas passer pour une paranoïaque, mais comme si la répartition de ceux qui sont dehors et de ceux qui sont à l'abri, même mal logés, était organisée de manière à ce que ceux qui sont dans ces parallélépipèdes hideux pouvaient être considérés par eux-mêmes comme un réconfort par rapport à la situation affreuse de ceux qui dorment dehors.
La dignité du pauvre, c'est d'être dans la laideur. On arrive quand même à des insanités idéologiques de cet endroit-là. C'est terrifiant.
Vous avez fait des études, puisque vous êtes professeur. Quel fut le sujet de votre mémoire à la fac? Pourquoi?
J'ai travaillé sur Jean Rey pour la seule raison que j'ai trouvé ces bouquins par hasard sur des bancs au bord de la Seine chez les bouquinistes. Je suis tombée sur Jean Rey, puis j'aimais bien, notamment la Cité de l'indicible peur. Mais je serais peut-être tombée sur un autre auteur et j'aurais fait une maîtrise dessus.
Nietzsche.
Pourquoi pas? C'était plutôt en philo. C'était plutôt en philosophie, mais j'étais en littérature. Mais en tout cas, c'était du fantastique, et c'est vrai que le fantastique et puis la Belgique m'ont tenu un certain temps.
Vous avez plein de noms propres dans la bibliographie que vous m'avez fait parvenir, mais j'aimerais, si vous le voulez, que vous me parliez un peu de Philippe Blondeau, avec qui vous avez co-dirigé pendant 12 ans la revue La Passe.
Alors, Philippe Blondeau, on s'est connu justement au moment des concours pour devenir professeur. Lui est devenu donc professeur de français, comme moi. Et puis, pendant que nous faisions des colles pour réviser la grecque ou le CAPES, l'idée nous est venue, lorsqu'on a aperçu un plastique bleu accroché à un barbelé, ça c'est l'anecdote intime, on s'est dit, tiens, et si nous fondions une revue où les écritures se croiseraient et non pas une revue comme catalogue d'égaux successifs. Donc est née cette revue La Passe, donc cette idée de faire en sorte qu'un texte se matine d'un autre texte, créolise, soit caviardé par un autre texte, de façon à créer un tiers texte. Cette aventure a perduré durant 13 ans.
Merci. Je propose que nous mettions un petit morceau de musique, Tristan Félix. Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire. Musique, Erwan.
C'était un extrait de La mort se fait la belle, le CD qui est sorti l'an passé aux éditions Venues d'ailleurs. Et c'est un travail de collaboration avec Johan Armand-Gilles, qui est collagiste plasticien, pataphysicien aussi et surtout, et qui est aussi collagiste musical et avec lequel... voilà.
C'est quoi un collagiste?
C'est quelqu'un qui fait des collages. Les premiers, on connaît, enfin, il y a eu aussi Andersen, mais Jacques Prévert est connu aussi pour ses collages. Des collages de photographies, de dessins, de gravures.
Oui, de dessins.
Et il est dessinateur également.
De photos voilà, aussi, je connais tout ça, mais de musique.
Ben alors là, c'est
le montage, quoi.
Voilà, c'est un montage musical, et avec voilà, ma voix et mes bruitages. Voilà.
D'accord, merci. Alors après, vous écoutez Radio Libertaire, l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au 145 rue Amelot. À la librairie Publico, émission Démo Une Voix dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez aussi contacter l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Alors, en quoi consiste votre travail de dessinatrice?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la langue m'est désapparue ou a disparu de ma conscience intelligente de 18 à 24 ans, en pleine étude de lettres. Et plus tard, je ne sais pas, par transfiguration ou je ne sais pas, par maturation obscure, je me suis mise au dessin qu'on pourrait appeler médiumnique, sauf que je ne suis pas en communication avec les esprits, mais plutôt avec... un inconscient, en tout cas, on peut appeler ça aussi dessin automatique, dessin surréaliste.
On avait déjà parlé, oui, je vous disais, oui. Est-ce que c'est médiumnique dans le sens où vous avez une vision et vous la reproduisez, vous reproduisiez,
non,
vous
en
avez
fait,
répondu non.
Non, je multiplie les motifs et peu apparaît une forme qui peut elle-même être contrariée par un autre afflux de motifs, etc., jusqu'à ce que... une forme multiple, polyphrène, advienne sur la page. Et la plupart de mes dessins sont de cette facture-là.
On en trouve beaucoup dans vos livres.
Oui, oui, oui. Pour moi, c'est aussi une forme d'écriture. Et mon écriture, enfin, certains n'apprécient pas parce qu'elle est très dense. Mais je sens en tout cas un lien entre la façon que j'ai de dessiner et celle d'écrire, avec la même densité. Où on peut y lire plusieurs figures en même temps. Dans les dessins médiumniques, enfin dit médiumniques, hein, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais on va dire les dessins automatiques, on peut renverser le dessin à droite, à gauche, en haut, en bas, le renverser, on y aperçoit des figures, enfin, des figures, des visages par exemple, ou des formes, et peut-être en écriture ce serait la même chose.
Bon, on va s'arrêter là sur les questions générales. On va passer au livre Rêve ou Crève, sorti aux éditions Tidemois en 2022. Comment vous vient l'idée d'un livre et de celui-ci en particulier?
Alors celui-ci regroupe des écritures de périodes différentes, mais le titre m'a semblé fédérateur pour un certain nombre d'entre eux, dans la mesure où, pour moi, le rêve est sans doute une des plus grandes résistances politiques qui puissent exister de nos jours. Il est inaliénable. Et si on nous prend notre rêve, on meurt. Et on parlait tout à l'heure de la laideur du monde. Et la laideur du monde empêche... Enfin, le travail assourdissant aussi des gens empêche l'être de rêver à autre chose. Et au départ, le titre était trop long. C'était pas... C'était pas crevé. Enfin bon, bref. On a réduit ce titre à Rêve ou crève. Et je pense que c'était très bien. Et je pense que si je ne rêve pas, si on ne rêve pas, on est mort. Et il y a beaucoup de morts vivants.
Ça a été dit plein de fois.
Oui,
quelqu'un
sûr,
qui ne rêverait pas mourrait.
Exactement.
Même s'il ne se souvient pas de ses rêves toute
Absolument.
Sa vie. Mais le rêve est obligatoire pour évacuer toutes les pensées de la journée.
Et si je donne un petit extrait ici. La vie sévit en travers de la gueule, c'est la balafre de l'étrange fruit qui pend depuis la nuit des temps. Pour crever de terreur, les grands yeux des amants, une morsure de la loi en pleine pomme. Le ver retourne le sol, dans la fosse à ciel, ouverte les jours de vacances, une colonie fraîche. Sa robe en corolle sans un pli, c'est l'abîme. On visite les eaux, en se tenant par la main, Ils sont très blancs. Toute trace de visage a disparu. Le massif des lauriers ternis absorbe un reste de lumière. C'est un extrait de Rêve ou crève, édité donc chez Tinbad et qui est extrait d'une section qui s'intitule Noir Éden.
Pourquoi êtes-vous attiré par la morbidité? Entre parenthèses, crâne, fantôme, putréfaction, monstre, cadavre, etc. Est-ce le contrepoids de la vie ou c'est la vie même?
Ah, vous résumez bien la situation, je trouve. C'est un peu les deux, on joue avec la mort. Les enfants jouent avec la mort. Je le dis souvent, je n'ai pas dépassé l'âge de 4 ans et demi. À tripoter les morts, on sent comme une familiarité, on se sent encore un peu vivant. De toute façon, les morts ne sont jamais totalement morts. À être régulièrement bouffés par les larves, etc. Ils sont pleins de vie, d'une certaine façon. Et un vivant qui est colonisé par les bactéries ou les virus, et aussi, d'une certaine façon, à sa part de mort. Mais plus généralement, en Occident, on a inventé définitivement une rupture entre le vivant et le mort. Partout ailleurs dans le monde, il y a un continuum du vivant à la vie. Pardon, du vivant à la mort, du vivant au mort, si je veux dire, de la vie à la mort. Et il m'arrive fréquemment de parler à ce que l'Occident considère comme inanimé, à un rocher, à une de mes marionnettes, à de la mousse, à une plante. Je suis pas la seule, hein, heureusement.
C'est beaucoup dans la religion animiste.
Oui, je vous parlais d'animisme, absolument. Mais je mettrais sans le mot religion.
Oui.
Si dans la religion, il y a religuere, hein, qui veut dire relier. C'est très très beau comme idée, en fait. Après,
enfin, disons dans l'animisme.
Voilà, quoi, absolument.
Dans, je ne sais pas comment dire, mais bon.
Donner un souffle de vie à ce qui...
On dit ça comme ça, quoi.
Oui, absolument.
Vous savez qu'ici, nous, le religieux, c'est pas notre truc.
C'est pas trop le mien.
C'est
non
le moins
plus.
Qu'on puisse dire, mais enfin bon,
oui.
c'est quand même des mots, ça existe, quoi, malheureusement.
Et les vers d'une poésie sont aussi des organismes vivants. Alors, avec le fameux jeu de mots vert et vert, comme ce que je viens de lire, les choses sont vraiment organiques. Enfin, je considère la langue, même quand je suis enseignante. Et ce que j'enseigne absolument à ma façon, pas comme on m'a demandé de le faire, j'enseigne la langue comme un organisme vivant. À chaque fois que j'enseigne la grammaire, je ne leur parle pas de formules de grammaire à apprendre par cœur pour avoir un contrôle, une évaluation après. Je leur dis que ce sont, je compare très souvent à des plantes, à des graines, à des animaux qui se nourrissent de telle ou telle façon. Et on retrouve exactement la même chose dans le fonctionnement de la langue. Ce qui est un peu normal, puisque nous sommes des êtres humains. Donc notre langue est à l'image de notre organisme. S'il y avait une grammaire de la truite ou une grammaire du trèfle, je pense que la grammaire contiendra en elle le fonctionnement du trèfle ou de la truite.
Est-ce que tous les textes présents ici étaient prévus pour figurer dans ce livre ou viennent-ils d'horizons divers?
Ils viennent d'horizons divers, oui. D'époques différentes. Ils viennent aussi du spectacle du théâtre des pendus que j'anime depuis un peu plus de 15 ans. Donc il y a des allers-retours entre la scène et les cris, entre le clown, la marionnette et le poème, en prose ou en vers. Après, c'est difficile de faire un recueil, de recueillir un ensemble pour qu'il ait une cohérence. Et pour moi, il y a une cohérence dans la mesure où tout ça, c'est de la poésie, que ce soit du clown, que ce soit de la marionnette, que ce soit de l'écriture, ou du dessin, ou de la photographie. C'est le flux continu du poétique qui est à l'œuvre, comme une pulsation sanguine.
Je vous pose une dernière question, vous y répondez vite, d'accord?
Oui.
Tristan, il est déjà 15.
Tac.
Mais elle est engagée. Dans votre triptyque contre le nucléaire, que vouliez-vous exprimer? Mais je tenais à la poser, parce que il y a un retour de bâton en ce moment pour le nucléaire,
oui.
En mauvais sens, suite aux événements qui se passent.
Alors, la question est difficile. Irradier l'humain, on en revient... Ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, je ne veux pas donner un sens à ce que j'écris non plus, hein, mais les vers que j'ai balancés étaient un petit peu comme des rayons qui devaient rentrer en collision avec les rayons nucléaires de Nagasaki ou d'Hiroshima. Je ne sais pas pourquoi l'être humain a inventé le rayon pour se détruire lui-même. Un rayon, c'est censé émaner de la lumière, c'est censé donner de la lumière, et par la lumière, on éteint. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, j'en suis désolée.
Mais non, mais bon.
Avec la lumière, on est censé donner la vie, et là, on détruit. Il y a une pulsion suicidaire grandissante de l'être humain.
C'est une réponse, ça.
De l'être humain actuel. Et comment expliquer cette pulsion suicidaire? Je pense que la Terre se rétrécit par... je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais l'envahissement numérique fait que tout communique à l'instant même. On est dans l'instant. Le temps a disparu, l'espace a disparu. Il n'y a plus qu'à irradier l'autre.
Ce qui fait mal, c'est le revival du nucléaire, quoi, en ce moment, à cause des événements.
Oui.
Les gens se prient devant les centrales comme si elles allaient apporter la solution à tout, quoi.
Ouais.
Jusqu'à la catastrophe, quoi. On va s'arrêter là, Tristan. Je vous remercie. Je vous laisse filer, courir, voler à vos rendez-vous. Et nous passerons dans la deuxième partie d'émission avec Gaëlle Aubier-Gly. Petit morceau de musique, Erwan.
De La mort se fait la belle du CD avec Arsène Trifon, et ce morceau s'appelait La révolte des yeux rouges en faux chinois, puisque je parle une douzaine de langues vraiment imaginaires, à vraies consonances en tout cas, et c'est ce qui me permet peut-être de réparer la souffrance de la langue quand j'étais plus jeune.
Merci Tristan. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous avons reçu en première partie d'émission Tristan Félix pour Rêve ou Crève, sorti chez Tinbad, dont on n'a pas pu parler, Tangor, sorti chez PHB Édition, et pour Faux une faille chez Z4 Éditions. Gaël Obligli, nous vous recevons pour vos derniers livres qui viennent de sortir chez Christian Bourgois, totalement inconnu, et pour un ancien livre, ce que je ne sais pas trop lequel choisir, alors là pour cette fois-ci c'est rare, j'ai choisi un ancien livre, Petit éloge de la jalousie, sorti en folio, et je précise 2 euros. Mmh. Donc aucun auditeur ne pourra dire qu'il apparaît, même il fait la manche 5 minutes et il obtient 2 euros.
Ouais.
Je vais d'abord vous poser quelques questions biographiques ou d'ordre général, puis nous passerons à vos deux livres. Je vous ai déjà reçu une fois pour d'autres livres, mais je reprends la partie biographique qui se recoupera, car il y aura toujours un auditeur qui ne vous connaît pas du tout. Cela vous va ?
Très bien.
Vous êtes né en 71, en août, à Chartres, dans la Beauce. Vous êtes issu de quel milieu ?
Milieu... Comment on appelle ça? Je pense classe moyenne. C'est-à-dire que je viens d'un milieu qui est... mes parents étaient des employés et milieu rural. Il y avait assez peu de livres chez moi, mais je viens d'une famille où on avait énormément de respect, de considération pour le savoir, pour les livres, pour la littérature, la poésie, la philosophie, la science, etc. Ce qui fait que je précise parce que c'est un milieu modeste, mais où la vie intellectuelle a toute sa place.
Dans la quatrième de couverture, il est écrit... Ah non, c'est pas ça, excusez-moi. Quelles furent vos lectures dans votre toute enfance ?
Dans ma petite enfance.
Toute enfance.
J'ai beaucoup j'ai lu beaucoup de contes quand j'étais enfant. Et
genre.
J'ai lu les contes de Perrault, les contes de Grimm, les contes d'Andersen. Mais j'ai lu aussi. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, sous les yeux. Donc, parfois, c'était des... Par exemple, j'ai lu toute l'encyclopédie médicale. J'ai lu des choses qui n'étaient pas du tout destinées aux enfants. Des livres techniques. Mais je crois que, si je peux m'attarder un petit peu là-dessus, je pense que j'étais fascinée par la langue et par les langues. Tristan Félix parlait des langues imaginaires et moi je pense que j'ai toujours été fascinée par la langue et par le fait que dans une langue il y a beaucoup de langues différentes et voilà et je me souviens que j'étais fascinée par la ponctuation dans tel conte voilà. Après j'ai lu d'autres choses à l'adolescence notamment j'ai lu la découverte de Dostoïevski quand j'avais 12 ans a été vraiment importante. Et puis plus tard, deux choses qui semblent vraiment en contradiction, mais qui ont été...
Quand même, c'est à 12 ans, Dostoïevski, c'est magnifique. Hein, moi, quand j'ai découvert, ouais. C'était un choc. Moi, je ne connaissais rien de la Russie.
Ouais.
Il me l'a fait découvrir.
Ouais.
Mais vous ne compreniez pas grand-chose quand même à 12 ans, si vous arriviez déjà.
C'est quelque chose qui m'intrigue. J'étais d'abord, je pense qu'au commencement, j'ai été intriguée par son nom. Parce qu'il avait un nom compliqué. C'est un auteur qui a un nom compliqué. Moi aussi, j'ai un nom compliqué. Et je me suis liée par... Enfin, c'était la première accroche. Ensuite, j'ai lu Crime et Châtiment. Et vous avez raison, j'ai pas tout compris.
Serait-ce que les prénoms, par exemple, le même personnage a plein de prénoms différents.
Oui.
Moi, je m'y retrouvais, mais pourtant, je l'ai lu beaucoup plus tard que vous et je m'y retrouvais pas, quoi. Mm. Je savais jamais qui était qui.
Mm. Non, mais je me suis accrochée, j'ai pas tout compris. J'ai compris certaines choses. Mais maintenant, quand je lis des livres, bien que je sois adulte et que j'ai lu beaucoup, mais encore pas mal de livres que je ne comprends pas. Mais je sais quand c'est important. Parfois, je lis un livre, je comprends rien, mais je sais que c'est quelque chose d'important. Et qu'à un moment ou à un autre, je
comprendrais un peu plus et que peut-être à un moment, de loin, j'aurais une vision globale du texte.
Et en le relisant, vous le comprenez mieux ou ça reste toujours obscur si vous le relisez, si ça vous arrive?
Non, je l'ai relu, j'ai lu plusieurs fois les livres de Dostoïevski et à chaque fois j'ai une nouvelle compréhension.
Oui, c'est ce qui arrive en général.
Oui, j'ai une nouvelle compréhension et parfois je suis loin du livre et j'y pense ou quelque chose m'y fait penser et il y a un petit peu plus de sens, quoi. Voilà, ça vient par pas. Et plus tard à l'adolescence plus tardive, j'ai été à la fois j'ai découvert Rimbaud et en même temps, et c'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais les deux m'ont beaucoup enfin m'ont passionné. C'est, j'ai découvert aussi Kant. Et ça,
moi, j'ai rien compris.
Ça n'a rien à voir. Mais je crois que les deux, conjointement, les deux livres, m'ont demandé beaucoup d'efforts, de compréhension, mais dans des voies très différentes. Parce que Rimbaud, c'est pas facile à comprendre.
Non, mais c'est des images, c'est plus. Enfin, moi, oui. Je trouve que c'est plus simple que Kant. Kant, par exemple, il commence une phrase, et ça évolue. Et à la fin de la phrase, moi personnellement, parce que je suis un petit cerveau, mais des fois à la fin de la phrase, je sais même plus où il en était au début.
Oui,
vous voyez ça,
oui.
C'est incroyable ça. Oui. Moi, ça me dépasse quoi.
Oui.
C'est trop pour moi ça.
Ouais, mais justement, ça demande. Tout à l'heure, Tristan Félix, au début de l'entretien, elle a parlé de narration et de mémoire. Ça m'a intéressé, ça. Je crois que la lecture a à voir avec la mémoire. Et avec notre configuration interne. Il y a des textes qu'on ne peut pas lire à un certain âge, ou même qu'on ne pourra jamais lire, alors qu'on peut en lire d'autres beaucoup plus compliqués. Mais il y a une question de mémoire, quoi. Qu'est-ce qu'on arrive à mémoriser dans une phrase? Est-ce qu'on arrive à mémoriser suffisamment pour aller au bout et pour avoir le sens global? Vous voyez, c'est assez organique, finalement, tout ça, je crois.
Aviez-vous accès à une bibliothèque familiale ou c'est déjà un peu répondu à celle-là, ou municipale, et pouviez-vous lire tout ce que vous vouliez?
Oui, j'avais pas beaucoup de livres chez moi, mais quand j'en voulais un, mes parents me faisaient tout pour me le procurer. J'étais dans un petit village dans lequel on avait juste un marchand de journaux, mais on pouvait commander les livres, ils arrivaient au bout de 4-5 jours. Mmh. Il y avait une bibliothèque municipale où j'allais tout le temps, j'ai lu vraiment beaucoup énormément d'ouvrages venaient de la bibliothèque. Et je lisais aussi beaucoup la presse, parce qu'il y avait ce marchand de journaux, et ma mère a toujours lu beaucoup la presse, parce qu'elle s'intéressait à la politique. Et donc, je lisais beaucoup de journaux. J'adorais lire les journaux et j'aime bien encore lire le journal. Et je trouve que quand on est enfant, lire le journal, ça a quelque chose. On a, du moins à l'époque, je vous parle des années 80, il y avait quelque chose de noble dans le fait d'ouvrir un journal et de prendre des nouvelles du monde. Ça faisait partie de mes. Enfin, c'était quelque chose. Une lecture à laquelle j'avais accès facilement.
Lors de votre adolescence, quels furent vos chocs, entre guillemets, littéraires? Qu'en découvrant un livre, on découvre un monde, vous avez aussi un peu répondu.
C'est Rimbaud. Oui, c'est Rimbaud. C'est vraiment la découverte d'un monde. C'est Dostoïevski, c'était important, mais c'était pas vraiment un choc. Tandis que Rimbaud, ça a été un choc, dans le sens où deux choses, deux mondes se sont entrechoqués. Le mien et celui qui est porté par ses textes, par ses poèmes. j'ai vraiment perçu le caractère conducteur du langage, sa capacité à nous conduire dans un autre monde, quoi, dans un monde intense, le monde, non pas le monde du beau, mais le monde de la beauté, voilà, tout ce que produit et tout ce à quoi le langage peut conduire, ça m'a été apporté par la lecture de Rimbaud.
Quelle étude avez-vous faite ou pas faite? En quelle façon? Et quels furent les sujets de vos mémoires, s'il y en eut?
Non, j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai fait de l'histoire de l'art. Je voulais étudier quelque chose que j'avais pas étudié à l'école ou au lycée. Alors, il y avait deux possibilités. C'était ou le droit ou l'histoire de l'art. Ce sont deux matières qu'on n'étudie pas dans le secondaire. Et j'ai choisi l'histoire de l'art. Mais je me suis détournée des études assez tôt. Je suis partie...
Et pourquoi?
J'avais une copine à la fac... qui, comme moi, avait un grand intérêt pour la poésie américaine. Ouais, on séchait les cours d'anglais, mais on attendait toujours à la fin du cours que les autres sortent pour récupérer les cours. Et un jour, elle m'a dit partons, faisons autre chose. Et on est parti d'abord à Amsterdam, ensuite on est allé à New York, on a rencontré des poètes. Et je ne suis pas revenue pendant un certain temps. Et donc, j'ai arrêté mes études.
Pensez-vous sortir des livres adolescentes? Vous en êtes quand même à 11 livres et de nombreux articles.
J'avais pas du tout l'intention de devenir écrivain. Et puis...
Qu'est-ce que vous vouliez faire?
Rien.
Ouais, c'est ça, comme tous les à cet âge-là, c'est ça, quoi, c'est normal.
Oui. Moi, je voulais rien faire, c'est j'ai normal. Jamais eu d'ambition professionnelle.
À la rigueur, on voulait être poète, à la rigueur. Même pas.
Ouais, enfin, si, j'écrivais des poèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'écrivais des poèmes, je fréquentais des poètes, mais des poètes vraiment de haut niveau et beaucoup plus âgés que moi. Et ça avait un effet quand même assez. En fait, hein, ça avait un effet, je vais vous dire. Plus inhibant que stimulant. Parce que... Et ça, c'est un truc que j'ai compris après. Enfin, il n'y a pas si longtemps. C'est que parfois, les modèles sont contre-productifs. Alors qu'un contre-modèle peut être beaucoup plus stimulant pour écrire ou même pour vivre, pour la réflexion. Et donc, j'écrivais des poèmes, mais j'avais vraiment aucune ambition professionnelle et j'ai jamais eu envie de faire carrière dans quoi que ce soit, même dans la... Enfin, et surtout pas dans la littérature.
Je propose, Gaëlle Obiegli, que nous mettions un petit morceau de musique. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission à Émission des mots une voix, librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez aussi la contacter au mail demo.unevoix@gmail.com. Musique Erwan.
I swear Delta, Gamma. Everybody smoked. Well, you can't say that my soul has died away. No, you can't say. Well, we're trapped inside the song, trapped inside the song, trapped inside the song, where the nights are so long. Trapped inside the song, trapped inside the song, trapped inside the song, where the nights are so long. Trapped inside a song.
Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan sur Radio Libertaire. Nous avons reçu en première partie d'émission Tristan Félix et nous recevons en deuxième partie d'émission Gaël Obiegli. Nous en sommes aux questions d'ordre général et biographique. Vous partez en 93 aux États-Unis. Où et pourquoi faire et comment débute votre expérience littéraire là-bas?
Je voulais dire que la chanson qu'on a écoutée, c'était une chanson des Silver Jews, qui est un groupe que j'aime bien. En 1993, on est parti de... D'abord, on est allé à Amsterdam et ensuite à New York avec mon amie Virginia. Et là, on a été hébergés dans différents lieux. Et puis, j'ai rencontré des poètes, notamment Ira Cohen, qui est un...
Comment vous l'avez rencontré, par exemple?
Je l'ai rencontré à Amsterdam. Il y avait un festival de poésie américaine à Amsterdam. Et là, je l'ai rencontré. Il y avait aussi un poète qui s'appelle Gérard Malanga, qui est en réalité, il est connu surtout parce que il faisait partie du groupe de Andy Warhol à la Factory, et c'était son assistant. Mais c'est aussi un poète. Et, euh, et, Et là, j'ai rencontré un monde, comme vous disiez tout à l'heure. C'était beaucoup plus que des poèmes qu'on écoutait. Ces poèmes étaient des fenêtres, des portes qui débouchaient sur un monde, mais un monde très réel, un monde assez excentrique, sans loi. Et c'est là que j'ai poursuivi l'écriture, mais dans un nouveau sens. Auparavant, j'écrivais quand j'étais à l'internat, mais j'écrivais dans mes cahiers. C'était des nouvelles ou de l'ordre du journal intime.
Et vous les considériez comme aboutis, les textes que vous écriviez alors à l'internat ?
Non, c'était pas du tout des textes qui étaient destinés à la publication. C'était des... Je sais pas, c'était comme des cahiers de dessin, finalement. Après, j'ai écrit des poèmes. Quand j'étais liée aux États-Unis, j'écrivais des poèmes. Mais pour moi, c'est pas des textes aboutis non plus. J'ai jamais voulu les publier. Mais je me suis mise là à lire vraiment pas mal de poètes américains à ce moment-là. Et
La Beat Generation, par exemple.
Oui, notamment La Beat Generation. C'est vraiment, ça a été très important pour moi, cette lecture. Au fond, ce qui est important, c'est quand je lis un livre et que ce livre sort du livre. Quand j'ai plus l'impression de lire quelque chose, quand je suis transportée physiquement et mentalement dans un monde, mais qui communique, en fait, qui modifie aussi ma vie et mes perceptions. C'est ça, c'est des livres qui... La littérature, il faut qu'elle m'augmente. On parle pas mal d'hommes augmentés maintenant à cause du transhumanisme. Enfin, c'est une vieille histoire, hein, mais on en parle maintenant beaucoup. L'augmentation qui s'est fait par des prothèses, qui se fait par la technologie, etc.
Mais quand vous êtes augmenté, vous ne perdez pas d'un autre côté ?
Est-ce que je perds d'un autre côté ?
Est-ce que ça s'ajoute ?
Ça s'ajoute. Moi, j'ai ça. La littérature, elle a cet effet-là de m'augmenter, de dilater l'imagination, dilater les voies de la perception, d'amplifier la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Vous avez une écriture blanche en italique pour moi. Que pensez-vous de ce terme et vous l'attribuez-vous ?
Blanche ?
Oui, blanche.
Ça veut dire ?
Ben, c'est... Vous ne connaissez pas l'écriture blanche ?
Si, mais c'est... Vous voulez dire que
c'est... Il n'y a pas beaucoup d'adverbes, pas beaucoup d'adjectifs, des phrases courtes. L'exemple qu'on prend toujours, c'est Annie Ernaux, que j'ai reçu ici et je le remercie.
J'avais pas l'impression d'avoir une écriture blanche.
Dans le dernier, surtout.
Ah bon ? Non, j'ai l'impression.
C'est une impression, peut-être que j'ai tort, vous pouvez revendiquer le contraire.
Non, mais je...
Ou pas douillet, peut-être j'avais pensé.
Je n'y avais pas pensé de cette manière-là. Alors, j'emploie peu d'adjectifs, c'est vrai. Et d'adverbes assez peu. En réalité, j'essaie toujours de trouver... je cherche l'économie. C'est-à-dire un point d'équilibre entre dire trop peu ou trop, entre deux excès. Alors, Je ne sais pas si c'est une écriture blanche. Ouais, on peut dire écriture blanche. Moi, je pensais à une écriture économe. Et pourtant, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Ce qui m'importe le plus, et maintenant, vraiment, c'est essentiel, c'est la fluidité. Et ça, c'est vraiment ce que je travaille le plus.
Il y a quelque chose qu'il n'y a pas de chez beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de digressions aussi chez vous.
Oui, il y a beaucoup de...
Des parenthèses, quoi. Vous les mettez pas dans le livre, mais c'est comme s'il y avait des parenthèses.
Ouais,
quoi.
Mais je mets pas de parenthèses. Je limite, mais je limite.
Il y a pas beaucoup non plus de virgules, de points virgules.
Ouais.
Parce que moi, des fois, j'avais envie de les mettre à votre place.
Oui, il y a peu de... Il y a effectivement peu de ponctuation. Il n'y a jamais de point d'exclamation, par exemple. Les parenthèses, il n'y en a pas. Mais tout est... La ponctuation est implicite. Elle est dans le... Mais comme souvent, c'est comme ça dans la poésie aussi. On met soi-même la ponctuation. Non, la fluidité, c'est vraiment ce que je travaille le plus. Et dans le dernier livre, vous avez dû voir que mes soudures sont très, très... sont précises. Et c'est parce que la digression, c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que ça a à voir avec la volonté et avec la liberté. C'est-à-dire que la digression, c'est ce qui s'impose... Tout à coup, à la pensée, vous êtes en train de parler de quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre, une autre parole, une pensée qui s'impose. Et parfois, ça semble n'avoir rien à voir. Pourtant, ça a à voir. Et donc,
votre,
moi, je les suis.
L'écriture reflète bien la pensée humaine telle qu'on est dans notre tête.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est une qualité que je vais trouver tout de suite dans le dernier livre.
C'est ça que je veux rendre.
On a l'impression de se voir penser, quoi.
Oui.
Alors, on part à droite, à gauche, mais en gros, on reste quand même sur une traînée. Mais c'est sûr, ne serait-ce que parce qu'on tourne le regard, on a un corps, on ressent des choses.
Oui, et puis, ben c'est ça qui me, c'est ça qui m'occupe vraiment. C'est en ça que le livre est un... C'est un défi. D'une certaine façon, et c'est un défi que je me suis donné un peu grâce ou à cause de Robert Musil dans L'homme sans qualité. À un moment, il dit que la chose la plus difficile à représenter pour un écrivain, c'est un homme qui pense. Et il dit que selon lui, enfin le narrateur du livre dit que selon lui, dans toutes les belles lettres, il n'y a jamais eu aucun écrivain qui se soit qui ait réussi à aller très loin là, dans ce genre de représentation.
Bah, je vous félicite,
j'ai pris pour un défi.
Un peu.
Ah ben merci.
À la fin des années 90, vous commencez des études de russe, je crois. Votre premier roman se passe en Russie. Pouvez-vous dire quelques mots de ce lien entre vos études et votre premier roman, si c'est juste déjà?
Oui, j'étais... c'est ça, c'est tout à fait juste. Il y a un lien parce que dans les cours, c'est pendant les cours de traduction, j'ai commencé à écrire un roman en marge. On traduisait Tolstoï. La mort d'Ivan Illich, et moi, je en même temps qu'on traduisait, des phrases me venaient et je les notais à côté, et peu à peu ça a pris une forme narrative, et j'ai écrit mon premier livre comme ça, dans les marges de cet exercice de traduction.
Comment s'est passé vos rapports avec l'éditeur? Quand vous êtes tombé sur une grande maison?
Bah, j'ai envoyé, j'ai fait une impression. Et puis, je suis passée devant chez Gallimard avec mon paquet de feuilles. J'ai attaché mon vélo, je suis entrée, je l'ai déposé dans une enveloppe adressée à Gérard Bourgadier, qui était l'éditeur de Louis Calafert. Et voilà, j'ai fait ça en sachant qu'il y avait très très peu de chances que mon enveloppe soit ouverte.
Quelques pourcentages qui sont pris comme ça.
Ouais. Et puis il y a, je crois que c'était même pas deux semaines plus tard, il a téléphoné. Mais j'avais juste mis les feuilles et j'avais mis un petit mot en disant juste que je voulais avoir son avis. Et il a répondu, il m'a téléphoné, il a dit que. Il m'a dit qu'il fallait qu'on se rencontre, on s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le fait que j'ai ajouté une petite carte sur laquelle il y avait écrit quasiment rien, alors que souvent, avec les manuscrits qu'il recevait, étaient accompagnés de lettres d'intention, ce qui l'exaspérait. Et puis, oui, il a voulu tout de suite publier le texte. C'est passé comme ça.
En 2004, vous fondez avec Pierre Weiss WO. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et qu'est-ce que c'est que WO?
Ouais, on a appelé ça l'entreprise VO. Pierre Weiss est un artiste plasticien qui fait aussi des films et des sculptures. Et on s'est lancé dans cette histoire de l'entreprise VO. C'est un conseil en réalité. Notre activité consiste à donner des conseils sur tous les sujets, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
À qui?
Ah ben, les gens nous contactent et on les écoute et on se transforme en consultant universel. Mais voilà. C'est une sorte de gag.
Et ça marche?
Ça marche par moment.
Ça existe toujours?
Ouais, ça existe toujours, mais on n'est pas très actif. Mais peut-être que là, après l'émission, je vais recevoir des demandes de conseils. Mais c'est gratuit, hein. Tout ça, c'est pas du tout pour
Ah, c'est gratuit, en
ouais,
plus.
Ouais, c'est gratuit.
Ah ouais, ouais, oui. Tant mieux, alors.
Ouais.
Vous êtes actrice de la plupart des films de Pierre Weiss, dans Arrêté s'impose en 2014. Quel jugement devrais-je craindre 2009, par exemple? Est-ce que c'est une chose prioritaire être actrice? Y pensiez-vous avant de rencontrer Pierre Weiss?
J'ai jamais pensé à être actrice ni à être quoi que ce soit d'ailleurs. Je le fais juste dans ces films et quelques films d'amis, quand ce sont des amis. Artiste, en général, je dis oui. Ça me plaît de faire ça. Ce qui me plaît, et ça a à voir avec l'écriture d'une certaine façon, ce qui me plaît, c'est de dissoudre mon moi pour incarner autre chose. Pas forcément un personnage, mais incarner une figure pour dire des paroles qui sont pas les miennes. C'est ça qui me plaît.
Nous avons tout de suite passé à Totalement Inconnu avant de mettre un morceau de musique, sorti chez Christian Bourgois, éditeur, en 2022. Pourquoi ce titre? On sait à la fin, par exemple. Vous reprenez la formule à la fin, en l'expliquant un peu.
Le titre, c'était pas le titre d'origine. Je sais pas si c'est intéressant de le dire. Bon, je le dis quand même. Le livre s'appelait Le Soldat Inconnu. Comme il y a eu la guerre qui a éclaté, ça me semblait un peu difficile de l'appeler Le Soldat Inconnu. Ça faisait un peu, ça me semblait opportuniste comme titre par rapport à l'actualité.
D'accord.
Et finalement, vous disiez tout à l'heure que j'employais très peu d'adverbes. J'ai remplacé le soldat par un adverbe. Et c'est plus donc ça ouvre aussi le sens du livre.
Page 72, vous écrivez, parlant d'une rencontre avec un raseur psychanalyste autrichien, au bord de mille traiteurs, excusez l'accent-ci, qui gênent vos désirs de solitude dans un café. Il m'a dit que Friedrich Nietzsche aimait beaucoup être seul, comme s'il l'avait connu. Votre humour, vous rendez compte de la manière dont il peut être perçu par vos lecteurs? En même temps, souvent, il y a de la gravité et du bon sens dans votre humour.
Est-ce que je me rends compte
Cette phrase-là, par
ouais.
exemple, comme s'il l'avait connu.
Oui.
Forcément, ouais. on a le sourire, quoi.
Oui. Oui, je me suis... Non, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont... que je me dis dans ma tête. Mais je pense que les gens ont le sourire parce que tout le monde se fait ce genre de réflexion. Non, quand on vous dit que... Tout le monde se fait ce genre de réflexion, mais on n'y prête pas trop attention. On passe. Moi, j'aime bien les retenir et les noter, tous ces apartés, tous ces commentaires qu'on fait en permanence dans notre tête.
Je sais plus si c'est vous ou si c'est dans quel livre, mais à un moment, il y a un repas, un groupe de personnes. Elle a été seule longtemps. Elle passe le mois de juillet toute seule et elle arrive dans un repas. Et là, carrément,
oui.
elle s'en va.
Oui.
Elle lâche tout le monde, il y a un dandy à côté d'elle. Elle s'en va, quoi.
Ouais, c'est dans Totalement Inconnu, oui.
Ouais, là, c'est vraiment... Elle se rend compte comme les mondains sont mondains. Et...
Oui. Effectivement, dans ce livre, il y a des situations comme ça de mondanité. Et de petite mondanité, hein.
Oui,
mais aussi
que,
des.
Parce qu'ils discutent, ils se prennent la tête, quoi, en gros.
Oui, c'est de la rhétorique, hein. Même si ça a l'air d'être de la conversation. C'est. Bon, voilà, c'est des gens qui affichent des positions par rapport à des sujets, mais c'est pas vraiment. Ce n'est pas soutenu par l'expérience, par la. Enfin, il n'y a rien de. Il n'y a rien de vraiment vécu, c'est théorique. Mais il y a aussi des vraies compagnies. Et la compagnie de... La narratrice parfois se trouve en compagnie de personnes ou de voix...
Qui rencontrent dans la rue.
Qui lui sont totalement inconnues. Et... Voilà, il y a différents types de compagnies. C'est un peu ce dont parle le livre, quoi. Avec quoi on chemine? Quels sont nos... On vit en compagnie de quoi? Aujourd'hui, la plupart des gens vivent, du moins en Occident, la plupart des gens vivent en compagnie de leur téléphone portable, ou de la technologie, ou des réseaux sociaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça va pas être toujours le cas à mon avis. C'est passager. Mais on peut être... Il y en a qui vivent aussi en compagnie de Dieu, par exemple. C'est pas mon cas. Mais voilà, il y en a qui vivent en compagnie des poètes et aussi il y a cette compagnie de tout ce qui nous entoure et qui nous est totalement inconnu.
On retrouve plusieurs fois dans vos livres, si je ne me trompe pas, le métier d'hôtesse d'accueil. Pourquoi?
C'est le métier que j'exerce. Et je trouve que c'est important de... Je trouve que c'est important de parler de la main à charrue, comme disait Rimbaud. La main à plume vaut la main à charrue. Oui, je sais plus dans ce livre-là.
Oui,
ouais.
Je crois. Ouais.
La main à plume vaut la main à charrue. Moi, je considère que quand on est poète ou écrivain, il est important de parler aussi de son travail, de son métier.
La sensation d'être mort, le soldat inconnu, etc. Ce livre tourne autour de quelques fils rouges. Sont-ils choisis avant de commencer le texte? Autrement, saviez-vous où vous alliez, commençant ce récit, où votre plume vous a-t-elle mené?
Alors, il y a effectivement au départ plusieurs choses qui sont là. Et je mets longtemps à écrire un livre. C'est-à-dire que le livre, il vient en général pendant 10 ans, il mûrit et tout à coup.
Dans votre tête ou par des notes ?
Des notes et dans ma tête, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui est une obsession. Une obsession, au départ c'est une idée fixe, puis c'est une obsession et après ça devient vraiment une folie. Et j'écris toujours dans un moment d'intensité, de folie, et ça dure des mois et des mois. Mais tout ça est venu très, très lentement. Et il y avait effectivement plusieurs choses qui étaient là dès le départ. C'est la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Et comment se fait-il qu'il y a des choses que je ne connais pas et que je connais quand même ? Donc, par quel biais ? Donc, c'était plutôt la connaissance et les modes de connaissance, et en particulier le mode de connaissance qu'on appelle l'intuition et qui est propre aux artistes, mais qu'on retrouve aussi chez les scientifiques.
Je suis pas d'accord. Non. Tout le monde en a l'intuition, ou en a pas, mais c'est pas réservé ni aux artistes.
Non, c'est pas réservé, mais c'est valorisé, exploité.
Là, je suis à moitié d'accord.
D'accord.
Ouais, il y a par exemple pour le soldat inconnu, il y a une longue. C'est pas une digression, c'est un fil rouge carrément entre le soldat inconnu et un soldat inconnu.
Oui.
Ben ça, par exemple, moi, je m'étais jamais posé la question. C'est vous qui m'avez ouvert les yeux là-dessus.
Mm-hmm. Oui, la différence que fait voir l'article 1 par rapport à l'article indéfini par rapport au défini. C'est-à-dire que quand on dit le soldat inconnu, on nomme un concept. Alors que si on dit un soldat inconnu, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit sur la tombe, la tombe du soldat inconnu. Sur cette tombe-là, il n'y a pas écrit « Ici repose le soldat inconnu ». Il y a écrit « Ici repose un soldat inconnu, mort entre 1914 et 1918 pour la patrie ». Donc, il n'est ni mort pour la France.
Ah, je veux dire, il peut être allemand.
Il peut être allemand. Et puis, c'est pas le soldat inconnu, c'est un soldat inconnu, ce qui veut dire que c'est quelqu'un, c'est une personne. Et alors que quand on parle du soldat inconnu ou monument au soldat inconnu, le soldat inconnu, c'est personne en fait, c'est un concept, c'est une idée. Et voilà, donc c'est le déterminant, c'est-à-dire c'est une question de langage, mais c'est une question qui engage. Qui engage la réalité.
Je vais faire un aparté personnel, ce sera la dernière, parce que là, Diane a dépassé l'heure, Gaëlle Obiegli, j'en suis désolé. C'est page 232-233, mais bon, c'est personnel, hein, c'est parce que j'aime beaucoup. Non seulement je n'ai pas fait obstacle à sa mort, mais en plus de ça, comme je savais qu'elle en avait marre de vivre, j'ai attiré son âme dans un lieu qui me semblait le meilleur pour elle. On pourrait dire en quelle occasion. Selon ses goûts, c'est une île des Canaries. Elle doit son relief à un volcan. En son centre, il y a une grande forêt fantastique. Au large des côtes, il y a des baleines. Mais surtout, il y a ce qu'elle aimait. Des fleurs, des arbres exotiques, des bananiers, un ciel bleu intense, des couleurs vives. Des gens qui dansent. L'île que vous décrivez ici, c'est Tenerife que je connais bien. Vous la décrivez en quelques mots d'une très juste manière. Mais j'aimerais revenir sur ces quatre mots. Des gens qui dansent. Oui, à Tenerife. Au moins dans les fêtes de village, je n'y vis pas dans les grandes villes. Les gens dansent, les culs bougent en rythme, et tout le monde participe. Ce sont un peu comme des transes. Pourriez-vous nous dire quelques mots de cela ?
Oui.
Je trouve ça magnifique.
Oui. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a... tout à l'heure, vous avez parlé de choc à propos de lecture de l'adolescence, mais parfois, il y a des chocs comme ça dans des pays. Et c'est aussi fort que la découverte d'un poète. Hein. Et en effet, aux Canaries, tout à coup, la nuit tombe, les gens mettent de la musique et ils se mettent à danser. Et c'est naturel et il n'y a plus de fonction. En fait, tout le monde perd sa fonction. Ce sont des corps qui bougent au son de la musique. C'est aussi fort que de regarder un paysage, quoi.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry. Nous avons reçu ce mois-ci Tristan Félix et Gaël Obiegli. Tristan Félix, bon, on a eu le temps de parler que de rêver ou rêve ou crève, sorti chez Tinbad. Et Gaël Obiegli, nous avons eu le temps de parler que de Totalement inconnu, sorti chez Christian Bourgois. Malgré que j'ai reçu et beaucoup apprécié le petit éloge de la jalousie sorti en folio chez Gallimard. Malheureusement, voyez, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et je vous remercie, Gaël Obiegli.
Ah ben, moi aussi, je vous remercie. J'étais très contente d'être ici.
Au mois prochain, les auditeurs. Musique, Erwan.
Certelle n'est pas bâtie,
non, certelle n'est pas bâtie,
sur du sable sa dynastie. Thank you.